La MIF en partenariat avec Keolis sur Radio Immo et Radio Territoria.
Les amis, bonjour. Voilà, seconde journée du Salon des maires d'Île-de-France avec notre partenaire Keolis. On va parler d'un sujet majeur qui est celui aussi des mobilités, mais aussi de la façon dont on déambule dans la ville avec finalement une vision multipolaire. Les maires que nous aimons beaucoup, beaucoup justement, apprécient ce type de démarche. Justement, Keolis, on va en parler avec vous puisque bonjour Laurent Cavalido. Vous êtes le nouveau directeur général adjoint de Keolis et vous êtes en charge de l'Île-de-France.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci pour votre invitation.
Alors, on est aujourd'hui au Salon des maires et des collectivités locales. Alors, vous le savez, c'est un rendez-vous incontournable pour tous les acteurs du territoire. Quand on parle de mobilité aujourd'hui, on ne parle plus seulement de transport, on parle d'attractivité, on parle d'emploi, on parle de logement, de transition écologique. C'est vraiment les sujets les plus majeurs, les plus brûlants aujourd'hui sur la préoccupation des maires. On peut même parler de cohésion sociale. Et c'est un vrai sujet. Et j'aimerais, si vous voulez bien, Laurent, qu'on évoque tout ça un petit peu avec vous. Et on va parler justement de cette région qui est en pleine mutation, en pleine transformation, que vous prenez vos fonctions à un moment un peu particulier, on peut le dire, pour l'Île-de-France, entre le Grand Paris Express, les nouveaux tramways, les nouvelles lignes de bus et l'ouverture à la concurrence. Moi, j'ai envie de vous poser une question un peu macroéconomique. Quelle est votre lecture des grands enjeux des mobilités dans les prochaines années ?
Alors effectivement, c'est une période extrêmement stimulante, notamment en Île-de-France, hein, avec une révolution des transports qui est à l'œuvre depuis maintenant plusieurs années. Et on le voit, un champ des mobilités où maintenant on travaille vraiment sur tous les modes, de manière à essayer de proposer aux franciliens et aux franciliennes de pouvoir se déplacer efficacement et avec aussi des déplacements de banlieue à banlieue, sortir un peu du réseau en étoile classique, sur lequel, et on pourra en parler sur les lignes du Grand Paris Express notamment, ou sur le Grand Paris des bus, on a un rôle majeur à jouer.
Alors justement, ce rôle est même, j'allais dire, essentiel. Et vraiment merci pour ce que vous faites. Quand vous échangez avec les maires, les présidents d'intercommunalités que vous côtoyez au quotidien, c'est quoi leurs principales attentes aujourd'hui vis-à-vis d'un opérateur comme Keolis, très précisément ?
Je pense qu'elle est double. D'une part, ils attendent une écoute et une compréhension des dynamiques sur leur territoire. Et ça, c'est très important, qu'on soit à leur écoute, à l'écoute de leurs administrés, pour comprendre comment fonctionne le territoire. Et d'autre part, quand on passe par un groupe comme Keolis, on attend aussi des solutions d'un leader mondial des mobilités qui peut apporter de l'innovation, des solutions nouvelles. Et ça, c'est aussi une attente forte de leur part. Il y a ces deux sujets.
Et le fait que vous ayez justement cette puissance ingénierique, cette puissance industrielle, cette capacité à l'écoute, c'est un élément important pour le maire. Ça le rassure.
Exactement, parce qu'il sait justement qu'on a des retours d'expérience qui peuvent être utilisés, déployés, des solutions innovantes, aussi bien sur le digital que sur des types de services qu'on peut apporter. Et ça, je pense que c'est aussi une attente forte de pouvoir avoir un groupe qui leur propose ce qu'il fait de mieux à un moment donné sur d'autres réseaux et qui essaie de tirer vers le haut cette question des mobilités.
C'est très clair. Pendant très longtemps, il faut le dire, les transports étaient, on va dire, assimilés à un service public parmi d'autres. On peut le dire comme ça. Aujourd'hui, on sait que les transports, c'est un vrai levier de mobilité. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne prend plus la place du service tel qu'on l'imaginait fut une autre époque. Aujourd'hui, c'est un aspect central. Et c'est presque un aspect majeur de préoccupation dans la ligne politique de la collectivité. Quel est votre avis sur la question ?
Je partage totalement. Ma conviction, c'est que les transports sont plus que des transports, c'est avant tout des modes de vie. Ils contribuent à la qualité de vie d'un territoire, ils contribuent à son attractivité, son dynamisme.
C'est un vrai levier territorial.
C'est un vrai levier territorial, c'est un levier de cohésion sociale également, la capacité à pouvoir se déplacer pour son travail, mais aussi pour ses loisirs, ou même pour la santé, ou pour d'autres commodités. Donc je pense qu'on est au cœur d'enjeux, notamment dans cette région Île-de-France, hein, qui est en croissance très importante, qui en font un défi stimulant, mais qui font que c'est davantage que des transports, effectivement.
Alors, est-ce qu'il y a des particularités, juste pour compléter, entre des agglomérations très contraintes, très denses, Paris, Île-de-France, et d'autres territoires plus détendus ? Ou est-ce qu'on a toujours le même sujet central qui intervient dès lors que la communauté des hommes, entre guillemets, se réunit dans une ville.
Alors, on a des points communs sur quand même la qualité de la desserte. Il y a un certain nombre de fondamentaux qu'on retrouve. Maintenant, les solutions ne sont pas les mêmes. Des agglomérations très denses, quand on est effectivement au cœur de Paris ou même de la Petite Couronne ou dans certaines grosses métropoles sur lesquelles on opère, on est vraiment sur du mass transit, donc on va être sur des flux très importants en termes de gestion. Mmh. Et puis, les territoires plus périurbains, voire ruraux, sur lesquels on intervient aussi, on va être sur des solutions de lignes de car express, par exemple, ou de transport à la demande, sachant que ce qui est important, c'est qu'on puisse offrir des solutions de mobilité confortables, fiables et efficaces, quels que soient les territoires. Et de notre point de vue, l'équité territoriale est un aspect majeur que se doit de traiter une politique de transport.
Ah, j'aime beaucoup ce que vous dites là, équité territoriale. Vous savez que ça fait résonne énormément dans l'esprit du maire. Et ça, vous le savez, je pense que dans la narration, c'est hyper important aussi de rendre justement cette idée qu'il n'y a pas d'inégalité dans les territoires. Et d'ailleurs, dans notre pays, il ne peut pas y avoir d'inégalité entre les territoires. Quelle que soit la taille de la commune, elle a le droit absolument aux mêmes accès. Alors justement, concrètement, lorsqu'une nouvelle ligne de transport arrive dans un territoire, qu'est-ce que ça change pour les habitants et plus largement même pour l'économie locale ?
J'ai un exemple. Récemment, en février dernier, nous avons mis en service le TZN4 à Évry, Corbeil-Essonne. Donc on a remplacé une ligne structurante qui était vieillissante, des vieux bus, par des bus biarticulés de 24 mètres, tout neufs, sur un site propre. Et on transforme complètement le visage d'un territoire. On montre également là-dessus qu'il n'y a pas de citoyens de seconde zone. La Grande Couronne, et on insiste là-dessus, c'est aussi une fierté de Keolis, porté par Île-de-France Mobilité, hein, que je salue là-dessus, c'est important de montrer qu'on investit dans ces territoires. Et aujourd'hui, quand on prend le TZN4 à Évry, à Corbeil-Essonne, c'est une fierté et on voit le sourire des gens qui sont heureux d'avoir ce type de transport. Et ça va transformer des quartiers entiers. Et on est extrêmement heureux quand on peut porter ce type de projet en commun avec Île-de-France Mobilité.
Alors justement, Keolis, c'est une nouvelle forme de... j'allais dire de géographie des territoires. Vous allez exploiter demain plusieurs lignes du Grand Paris Express. Un enjeu majeur. Notamment, je peux donner les chiffres, la ligne 16, 17 et 18. Que va changer ce projet concrètement pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, pour les élus qui nous écoutent, pour les habitants, comme pour les collectivités concernées, Laurent?
Ça va être un changement extrêmement incroyable. Important. La première ligne en service sera la ligne 18 d'ici la fin de l'année, qui va être une vitrine. Il n'y a pas eu de ligne automatique de métro depuis la ligne 14 dans les années 90. Donc ça fait 30 ans qu'on n'avait pas vu ça. Et effectivement, ce Grand Paris Express, il va notamment faciliter les dessertes de banlieue à banlieue. Petite Couronne, Grande Couronne, ça va à terme alléger aussi le trafic dans le métro, désaturer le métro, et pour les territoires c'est un levier de développement, d'attractivité qui va être assez formidable, et je pense qu'une fois encore, avec ce projet qui est là maintenant depuis une dizaine d'années, qui va voir le jour dans pas longtemps, c'est une véritable transformation de l'Île-de-France qui va s'opérer.
On est extrêmement en attente justement de ça, et d'ailleurs j'aimerais bien qu'on aille avec nos caméras filmer tout ça. Je trouve ça génial. On parle souvent de transport, mais derrière ces lignes, justement, il y a des enjeux majeurs. Hein, l'aménagement, l'immobilier, le développement économique. Moi, j'ai l'impression que vous pouvez jouer un rôle central. Quel rôle, justement, vous imaginez pour Keolis dans cette dynamique incroyable qu'est en train de vivre l'agglo?
Alors, déjà, c'est un rôle, malgré tout, il faut qu'on reste à notre place. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est d'être, je reviens sur ce que j'ai dit au tout début, à l'écoute des élus.
Bien sûr.
Ce sont eux qui font les territoires, ce sont notamment les maires et puis bien évidemment Île-de-France Mobilité. En revanche, on peut être un facilitateur dans la compréhension qu'on a des dynamiques territoriales pour essayer de proposer des solutions pour améliorer la desserte de quartier, pour améliorer la desserte de zone industrielle. Donc en fait, il y a une agilité qu'on se doit d'avoir vis-à-vis des territoires et vis-à-vis de leurs élus pour aider à ce développement en prenant en compte toutes ces problématiques d'aménagement et de logement, car l'ensemble des enjeux sont étroitement imbriqués.
Alors, justement, alors en plus, je ne peux pas ne pas dire, parce que j'aime beaucoup Pleyel, donc je peux vous dire. Saint-Denis Pleyel est appelé à devenir l'un des principaux hubs de mobilité européen. Une ambition extraordinaire. Qu'est-ce que ça représente, ce projet, pour Keolis et pour l'avenir du réseau francilien ?
Alors, une très grande fierté, quand on va dans cette gare, c'est une cathédrale.
Une ambition formidable.
Il y a une ambition architecturale et vraiment une gare. Alors, effectivement, pour ceux de nos auditeurs qui ont eu l'occasion de la visiter, peut paraître encore un peu vide aujourd'hui. Alors, elle a servi pour les Jeux Olympiques, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que d'ici quelques années, l'arrivée, la mise en service des lignes 16 et 17 va faire de Saint-Denis-Pleyel l'équivalent de Châtelet-Les-Halles. C'est-à-dire qu'on va créer en Seine-Saint-Denis un hub multimodal de la taille de Châtelet. Donc quand on parlait justement de désaturer le cœur du réseau parisien et de faciliter ces dessertes de banlieue à banlieue...
Il y aura des commerces, il y aura des...
Alors il y aura des commerces, des ambulations culturelles...
C'est incroyable.
Et puis un point très important que je veux saluer, c'est que les transports, c'est aussi avant tout de l'humain. Et c'est une gare où on a placé des ambassadeurs. Moi, je suis convaincu de ça, c'est qu'à un moment donné, il faut réhumaniser les transports. Et donc, c'est une gare aussi où on a des ambassadeurs qui sont présents au contact du public. Et ça, je pense que c'est très, très important.
Ça, c'est génial ce que vous dites, parce qu'il y a presque un besoin de relations humaines presque tactiles. Vous savez, on met un visage. Ce n'est pas une intelligence artificielle.
Exactement.
Ce sont des vrais ambassadeurs. Hein. Rassurez-nous, ce n'est pas des cyborgs. Non, mais je trouve ça génial parce qu'effectivement, c'est une attente. Effectivement, également du public. Transition écologique, où est-ce qu'on en est réellement ? Les collectivités ont l'objectif très ambitieux de décarbonation, pour être très clair. Fini les énergies fossiles. Aujourd'hui, on est sur des raccordements au réseau de chaleur, on est sur de l'énergie verte, sur du gaz vert. On utilise d'ailleurs les infrastructures justement de transport de l'énergie pour justement changer leur destination. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui chez Keolis dans la transformation de vos flottes et de vos infrastructures sur justement cette transition écologique importante?
Alors, c'est un défi qui est immense. Hein. C'est vrai qu'on a fonctionné pendant des années au diesel et là, tout d'un coup, on opte pour des solutions qui ont des niveaux de maturité différents.
Bien sûr.
Quoi qu'il en soit, et il faut prendre ce virage-là, hein, il n'y a pas le choix, présente un certain nombre de complexités pour l'opérateur aussi, bien évidemment, un certain nombre de coûts très importants. Il y a une falaise budgétaire dans certains cas pour les autorités organisatrices qui ont pris le sujet à bras-le-corps et on peut les en féliciter.
J'aime beaucoup le terme falaise budgétaire.
Ah, c'est des investissements colossaux.
Ah ouais. Hein, là, on est à hit retard, on est sur le...
Un bus électrique, on est à 500 000 euros le bus et 250 000 pour un diesel, hein, sur un bus standard. Donc, c'est pas les mêmes investissements, il y a les dépôts à convertir. Alors, nous, on est là pour accompagner nos autorités organisatrices de manière agnostique sur les solutions, que ce soit du bio-GNV, que ce soit du biodiesel, que ce soit de l'électrique, que ce soit de l'hydrogène. Donc, en Île-de-France, on accompagne Île-de-France Mobilité, bien évidemment, à ce sujet, hein, qui convertit ses dépôts avec un programme très ambitieux qui est en marche, là, pour avoir une flotte intégralement décarbonée sur toute l'Île-de-France d'ici 2029. Donc, c'est des enjeux qui sont très complexes pour l'opérateur, pour tous les acteurs. Mais justement, c'est là où un groupe comme Keolis, avec son empreinte mondiale, peut apporter une vraie plus-value à l'ensemble des autorités organisatrices.
Ah, justement, c'est les élus, et vous le savez, puisque vous les rencontrez tous les jours, sont confrontés à cette équation complexe, hein, et on le voit d'ailleurs, c'est un changement d'usage. Hein. On utilise les infrastructures différemment. C'est améliorer le service tout en maîtrisant les budgets. Budgets qui, pour les communes, parfois, ont été rognés à la baisse. Et puis, il faut rappeler, et je ne cesserai de le rappeler, qu'il y a une obligation légale à ce que les budgets soient à l'équilibre pour les maires, pour les villes, ce qui n'est pas la même chose que l'État. Autre débat. Mais donc, pour eux, c'est une équation importante. Ils veulent effectivement adapter ce service au budget. Comment, de votre point de vue, quel est votre avis sur comment on concilie finalement la transition écologique? Et il faut le dire, il faut qu'il y ait un modèle économique, il faut qu'il y ait une soutenabilité économique.
Alors effectivement, c'est un vrai défi qui est posé, sachant qu'au-delà de l'urgence environnementale, hein, qui commande et d'ailleurs des obligations réglementaires, la crise actuelle avec le détroit d'Ormuz montre qu'il y a aussi un enjeu de toute façon de souveraineté et d'indépendance qui est quand même nécessaire dans le cadre de cette transition qui s'opère. Moi, un des messages que je relaie souvent, c'est que face à ces défis qui nécessitent des investissements très importants dans la durée, c'est aussi important de conserver des marges de manœuvre budgétaires. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que pas tomber peut-être dans l'écueil de certains sujets sur la gratuité ou autre, car on a besoin, les attentes, en gros, quand on interroge nos voyageurs, ce qu'ils attendent, c'est de la qualité de service. Ils attendent des bus neufs, des nouveaux matériels roulants, de l'offre supplémentaire. Et je pense que par rapport à ces besoins d'investissement très importants auxquels vont être confrontées les autorités organisatrices, c'est effectivement important en termes de soutenabilité économique d'être vigilant sur les revenus de la tarification parce qu'on a ce défi très fort qui nous est posé à tous.
Ce que vous dites est fondamental, vous le savez Laurent, puisque il ne peut pas y avoir d'avenir sans modèle économique soutenable.
Oui.
Parce que ça ne marchera pas et que le passé a démontré que ça ne pouvait pas marcher. Et donc ce que vous dites est important et je salue d'ailleurs l'action des élus qui partage également ce point de vue, car ce que vous êtes et vous demeurez un allié objectif des collectivités locales, il n'y a pas à en douter. Je voudrais qu'on parle pour la dernière partie de notre émission de l'expérience voyageur et la sécurité. Parce que c'est aussi l'expérience. Votre signature, alors j'aime beaucoup, qui s'appelle Thinking Like a Passenger. J'aime beaucoup l'idée. Concrètement, j'allais dire, faites-nous rêver. C'est-à-dire que cette idée, justement, Thinking Like a Passenger, comment on améliore aujourd'hui l'expérience quotidienne du voyageur lorsqu'on sait qu'avec le monde qui parfois se durcit, les relations sociales qui sont parfois complexes, on peut créer cette agora du passage qui permet d'avoir quelque chose de plus sécure, de plus apaisé, et donc, en un mot, d'améliorer l'expérience.
C'est effectivement un des atouts forts du groupe Keolis, hein, ce thinking like a passenger, c'est vraiment d'être toujours à la place de nos passagers, de comprendre comment ils fonctionnent, quelles sont leurs attentes. Un exemple, c'est on a fêté les 20 ans de Keoscopy. Keoscopy, c'est un observatoire des comportements de nos voyageurs qui permet justement de parfois soulever des paradoxes, de lever des sujets. Ce que souvent les gens ne savent pas, c'est par exemple seulement 30% de notre trafic est sur les heures de pointe. On est persuadé que c'est les heures de pointe qu'il faut traiter, c'est important. Mais c'est ça qui nous a amené à remettre de la fréquence, de la qualité d'offre en dehors. Il y a de plus en plus de déplacements qui se font par exemple pour des motifs loisirs, le week-end par exemple. On a également un programme Keolis Signature Service qui concerne l'accueil à bord. Avec ce côté de l'humain qui est aussi très important. Donc on travaille beaucoup sur la formation voyageur. Donc c'est tous ces éléments-là, avec à la fois de l'innovation, de la qualité de service, de la compréhension de nos voyageurs, qu'on essaie de mettre en avant pour proposer les meilleurs services possibles à nos autorités organisatrices.
Alors justement, la sécurité et le sentiment de sécurité, c'est important de dire sécurité et sentiment de sécurité, c'est deux choses, voilà, on fait un peu dans la nuance, mais c'est important, sont devenus des sujets majeurs pour les élus locaux. C'est même d'ailleurs, pour certains maires, la boussole, hein, on peut le dire. D'ailleurs, tout à l'heure, on a une table ronde avec trois maires de communes intermédiaires, donc c'est le sujet majeur. Quels sont, selon vous, les principaux leviers pour renforcer à la fois la confiance dans les transports publics, mais donner justement ce sentiment de sécurité ?
Alors, malheureusement, il n'y a pas de baguette magique avec une seule solution, mais il y en a plusieurs, très clairement. Et là, je vais revenir sur le sujet que j'évoquais toujours, sur le côté présence humaine. Nous, on a, avec Île-de-France Mobilité, déployé sur nos réseaux. Alors, différents types de personnel. On va avoir à la fois des agents de lutte antifraude qui peuvent participer à ce sentiment de réassurance, des agents de sûreté, et c'est vraiment important qu'ils puissent être présents sur le réseau, là aussi contribuent à ce climat d'apaisement sur les transports, puis des médiateurs, parce que la médiation
dont
est
la
aussi importante.
La visibilité rassure d'ailleurs, je précise.
Exactement. Et puis des médiateurs, parce que la médiation est aussi un élément important du continuum de sécurité. Au-delà de ça, après, il y a la question des caméras qui peuvent aussi contribuer quelque part à améliorer le sentiment de sécurité, mais j'ai tendance à considérer que ça reste quand même la présence humaine qui est le facteur numéro un, comme élément qui fait que pour un homme ou une femme, et on sait que la problématique des femmes dans les transports est aussi importante, notamment à certains horaires sur certaines lignes, on se sent plus en sécurité.
J'ai une dernière question à vous poser, c'est pas prophétique, mais ça pourrait s'y apparenter. À quoi ressemblera la mobilité francilienne dans les 10 ans? C'est quoi votre vision à vous, Laurent?
Alors moi, je suis un chantre de la multimodalité. C'est-à-dire je considère que tout l'enjeu au cœur des mobilités en Île-de-France, et que porte Île-de-France Mobilité, c'est de pouvoir proposer différentes solutions de mobilité qui puissent s'interfacer sans couture et permettre, en fonction des temps de la vie, des temps de la journée, de pouvoir choisir son mode entre du mass transit et des modes lourds, entre des mobilités aussi légères, les mobilités douces que sont le vélo ou même la marche. Et je pense que ce continuum des mobilités, il est à construire. Et c'est toute la politique d'Île-de-France Mobilité d'avoir une AO unique à l'échelle de la région, de pouvoir proposer ça. Et puis l'autre moins, pour moi, quelque part, le vœu que je fais pour 2030 et même pour les années à venir, c'est une mobilité, une fois encore, qui va vers cette équité territoriale. Le fait que, quel que soit l'endroit où on se trouve en Île-de-France, on puisse avoir des solutions pour se déplacer. Et ça, je pense que c'est très important.
Merci beaucoup, Laurent Cavalido. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint en charge de Keolis Île-de-France. Un immense merci également à vos équipes et aux équipes de Radio Immo d'avoir organisé cette prise de parole essentielle, vous le savez, pour les maires, puisque vous êtes un peu l'artère fémorale, si je peux dire les choses comme ça, par lequel le sang urbain s'écoule dans la ville. Je trouve ça extrêmement sain qu'on ait justement des partenaires de cette taille. Merci encore une fois à vous. Vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes les informations sur le site de Keolis, d'ailleurs, sans aucun problème. Vous pouvez récupérer le podcast sur l'application comme d'habitude. Vous pouvez commenter, liker, mais toujours avec beaucoup de bienveillance. Laurent, je vous souhaite un excellent Salon des maires, Laurent Cavalido. On se retrouve dans quelques instants avec une table ronde justement autour, justement on parlait de la mobilité, de l'éducation également, des problématiques d'étalement urbain, avec trois maires, voilà, pas un, pas deux, pas trois, mais trois maires, avec Bussy-Saint-Georges, Pomponne, bien évidemment, et Val-Europe. On va se retrouver dans quelques instants.
La MIF, en partenariat avec Keolis, sur Radio Immo et Radio Territoria.